associatif dédié aux arts de la scène? Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de l'UQAM? UQAM en spectacle revient pour une 11e édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale d'UQAM en spectacle à la 5e salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Boussaïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous.
Beat to Eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to Eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah!
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Vous êtes découragé de voir tout cet espace médiatique accordé à des personnages grotesques et sexistes? Vous en avez assez de ces gens qui véhiculent une image réductrice du rôle dit traditionnel de la femme? Vous en avez assez de sentir votre intelligence attaquée avec des propos dégradants qui visent à vous réduire à votre sexe ou à votre orientation sexuelle? Tout ça, c'est un peu la faute aux médias. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Vous écoutez La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Émilien Roscanou. Je serai votre animateur aujourd'hui pour cette émission qui va être consacrée au féminisme et à la place des femmes en société. Aujourd'hui, nous avons autour de la table trois chroniqueuses que je vous présente à l'instant. Donc, nous avons Myriam Bernet, Camila Rodriguez-Serra et Camila Rodriguez-Serra qui sont de retour cette semaine. Et notre nouvelle venue, Sarah Thibault, qui est des nôtres également. Bonjour à toutes.
Bonjour.
Salut.
Donc, pour démarrer cette émission, Myriam va nous parler de ces armées de femmes qui se battent en ce moment même contre le groupe armé État islamique.
Femmes, vie, liberté, trois mots et le cri de ralliement de l'unité de protection de la femme connue sous le symbole de YPJ. Si le sigle ne vous dit rien, vous connaissez ces femmes kurdes depuis 2015. Ce sont elles qui ont récupéré Kobané, une ville syrienne frontalière de la Turquie qui était alors aux mains de l'État islamique. Et ces unités exclusivement féminines ont une histoire bien plus ancienne que ce que l'on pourrait penser. Pour la mise en contexte, attention, il faut suivre car c'est un peu compliqué. Les YPJ, donc l'unité de protection de la femme, sont en fait une branche des unités de protection du peuple, la branche armée du parti de l'Union démocratique du Kurdistan syrien, lui-même affilié au PKK, qui est le parti des travailleurs du Kurdistan, à ne pas confondre avec les Peshmerga, qui sont les forces armées du Kurdistan irakien et non syrien. Ces femmes qui se battent en ce moment même pour repousser Daesh, qu'on estime entre 7 et 10 000 combattantes, sont surtout la dernière génération d'une lignée qui remonte à l'époque du néolithique, quand les femmes étaient encore les égales de l'homme. En effet, elles prenaient déjà les armes quand les Kurdes étaient encore un peuple nomade. Et le parti de l'Union démocratique, pour lequel elles sont prêtes à sacrifier leur vie, veut changer les mentalités et effacer ce patriarcat dominant de la société kurde. Dans l'organisation du PKK, qui est dirigée par Abdullah Öcalan, les femmes ont une place à part entière dans la guérilla et peuvent accéder au commandement.
C'est pas rien.
Non, effectivement. Les femmes affiliées au PKK ont d'ailleurs chèrement gagné leur liberté, notamment par leur participation active aux révoltes étudiantes ainsi qu'aux grèves ouvrières dans les années 70 en Turquie. Après cet élan révolutionnaire, les femmes kurdes s'affirment de plus en plus et en 1991, Leyla Zana devient la première femme kurde élue au Parlement turc. En 1995, l'unité de protection de la femme est créée. Une suite logique face à l'engagement de tant de femmes dans l'armée du parti. Elles partent dans le Kandil, qui se situe dans des montagnes au nord-est de l'Irak, pour s'y installer et gagner leur autonomie complète. En 2013, une des cofondatrices du PKK, Sakine Kanziz, ainsi que deux autres militantes kurdes, ont d'ailleurs été assassinées à Paris. Sakine est alors devenue un symbole qui a inspiré et inspire toujours des générations de femmes. Sur le terrain, elles font d'ailleurs trembler les djihadistes, car ils considèrent qu'être tués par une femme leur ferme les portes du paradis.
C'est assez ironique. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur le, sur le fonctionnement interne de ces armées féministes?
Féminines. Certainement, petit lapsus, certainement. Alors, ces femmes viennent de Turquie, mais aussi de Syrie, d'Irak et même d'Europe. Et au-delà des entraînements militaires, les combattantes offrent et reçoivent des cours de politique, d'idéologie, de kurde, car la plupart ne savent ni le lire ni l'écrire suite aux interdictions dont le peuple kurde a souffert. Elles lisent et débattent à propos de Chomsky ou de Murray Bookchin, et au-delà de la liberté du Kurdistan, elles défendent des valeurs telles que la démocratie, l'écologie, la multiculturalité et bien sûr la parité. Elles considèrent la religion comme quelque chose d'intime, propre à chacun et sont très laïques. Elles sont également très organisées entre elles dans leur vie quotidienne et elles ne vivent pas avec des hommes bien que les combats soient mixtes. Mais plus encore, intégrer cette armée représente beaucoup pour ces femmes et malgré les sacrifices que cela entraîne, à l'exemple du vœu de célibat, faire partie de cette armée leur permet de s'émanciper. Elles qui sont d'habitude privées d'école et mariées très jeunes. Plus surprenant encore, elles possèdent même un comité de rééducation de l'homme où des hommes envoient leur candidature pour accéder à une formation qui correspond à 9 mois de cours d'histoire et de politique vus par les femmes.
C'est intéressant.
Oui, vraiment. Ils et elles considèrent que c'est l'homme, et je parle bien ici du sexe masculin et non de l'être humain en général, qui a rendu le monde invivable.
Merci beaucoup, Myriam, pour ce portrait très fidèle de la situation.
Ça fait plaisir.
Donc maintenant, on va aller vers Camila Rodriguez CA. Donc Camila, tu nous parles aujourd'hui d'une initiative du lobby des femmes de Suède, donc un peu plus loin en Europe, pas dans la même région. Donc pour envoyer le manifeste, nous devrions tous être féministes à tous les étudiants suédois de 16 ans.
Oui, c'est un manifeste qui est écrit par Chimamanda Ngozi. C'est une auteure nigérienne qui a gagné de nombreux prix. En fait, le manifeste est à la base un TED Talk. Puis pour ceux qui ne connaissent pas les TED Talks, ce sont des présentations vidéo. Donc les thèmes sont variés, puis c'est présenté devant un auditoire. C'est toujours assez intéressant, puis les orateurs sont toujours très doués. Le TED Talk en question aujourd'hui, c'est en anglais, sous-titré en français. On peut le sous-titrer dans les paramètres sur YouTube. Puis on va le partager sur notre page Facebook parce que vraiment, c'est très intéressant.
Vous irez le voir.
Oui, dans son manifeste, l'auteur parle de son expérience de vie, de ce qui l'a mené à devenir féministe et ce qui a changé son type de féminisme. Elle parle aussi de la culture qui est toujours en évolution, donc la culture patriarcale, on s'entend. Elle explique aussi c'est quoi sa propre définition d'un féministe. Pour elle, c'est une femme ou un homme qui reconnaît que oui, il y a un problème avec le genre aujourd'hui et que nous devons le régler. Elle dit aussi « on doit faire mieux ». Ce avec quoi je ne pourrais être plus d'accord. Clara Berglund, qui est la présidente du lobby des femmes de Suède, donc qui a contribué à envoyer le livre à tous les garçons et filles de 16 ans de Suède, dit à ce sujet-là que c'est un livre qu'elle aurait aimé que ses camarades de classe, en particulier les garçons, lisent quand ils avaient cet âge. C'est un cadeau qu'elle fait aux étudiants, mais aussi un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, puis aux générations futures, évidemment. Pour elle, c'est la base d'une discussion sur l'égalité. Ce livre a été distribué en décembre dernier. En janvier, il y a des guides de discussion qui ont été distribués aux enseignants pour les orienter en les aidant dans leurs discussions avec ces jeunes.
Donc, une autre initiative suédoise sur le féminisme a également attiré ton attention cette semaine. Quelle est-elle?
Oui, l'ambassade suédoise en Afrique du Sud organise un concours de photographie. Le thème, c'est « Interpréter l'égalité des sexes aujourd'hui ». Donc, ça peut être une photographie qui est artistique, documentaire, drôle ou sérieuse. Je trouve que c'est intéressant de voir la volonté politique derrière cette initiative du ministère des Affaires étrangères suédoise. Selon la ministre, c'est bien beau avoir des buts ambitieux, des moyens pour les atteindre, mais il faut voir dans les faits quelle est la situation concrètement. Les statistiques ne sont pas suffisantes pour avoir un portrait clair de la situation. Puis, au-delà des accords signés, au sujet de l'égalité, les jeunes filles vivent encore de la discrimination partout dans le monde. C'est pour elles un peu un reality check, voir la perception des citoyennes de la situation de l'égalité des sexes. Personnellement, j'ai un malaise à ce sujet-là. C'est un pays occidental qui s'en va en Afrique pour leur enseigner un peu quoi faire. J'ai un peu peur qu'ils imposent un féminisme occidental là-bas.
Un peu de néocolonialisme, peut-être. Et à ce sujet, Camilla, on dirait que la ministre des Affaires étrangères t'a répondu l'année passée. Elle a expliqué qu'il ne s'agit pas pour les Suédois de dire aux Sud-Africains comment agir, mais plutôt qu'il s'agit pour eux de leur demander ce dont on devrait parler.
Effectivement, mais ce qui ajoute à mon malaise, c'est que les gagnants du concours gagnent un voyage en Suède pour rencontrer le ministre de la Culture et de la Démocratie, puis les finalistes vont voir leur photographie exposée en Suède. Donc on peut dire que c'est génial pour les féministes de voir ce qui se passe ailleurs, puis personnellement, j'adorerais visiter la Suède. Mais j'habite au Québec, puis la situation est un peu la même. De même qu'il y a des rapports de domination entre les hommes et les femmes, il faut adopter une perspective, je dirais, intersectionnelle, c'est-à-dire associer les rapports de domination hommes-femmes à ceux qui existent parallèlement entre l'Occident puis les anciennes colonies, comme en Afrique. Donc j'ai peur qu'on enseigne un féminisme à l'occidental qui serait inutile en Afrique étant donné que leurs défis ne sont pas les mêmes que les nôtres. Aussi, est-ce qu'on ne peut pas laisser les Sud-Africains voir ce qui est bon ou important par eux-mêmes? Par exemple, en soutenant des initiatives de là-bas, nous, au lieu d'en imposer des nouvelles. Ouais, donc je suis vraiment ambivalente à ce sujet-là. Je me dis, c'est peut-être mieux que de propager le capitalisme sauvage, mais bon, je serais curieuse de voir l'avis de Chimamanda Ngozi à ce sujet-là.
Merci beaucoup, Camilla. Je vois qu'il y a beaucoup de nos chroniqueuses aujourd'hui qui ont réagi. C'est une situation particulière. Donc, merci beaucoup. On va se laisser en chanson très peu de temps pour Garden de Hinds. Donc, c'était Garden de Hinds sur choc.ca. Vous êtes toujours à l'émission La Faute aux médias. Donc, maintenant, notre troisième et dernière chroniqueuse, Sarah Thibault. Donc, pour terminer cette section de chronique, c'est quant à elle penchée sur la médiatisation des enjeux féministes au Québec durant les dernières semaines. Ça a beaucoup fait jaser. Et aussi sur la question d'empowerment des femmes.
Oui, effectivement. Donc, il y a deux semaines, la sortie de Lise Thériault, ministre de la Condition féminine, se déclarant plus égalitariste que féministe, a engendré une importante vague de réactions de toutes parts, hommes comme femmes. On a pu ressentir un sentiment d'urgence à se positionner sur la question. Suite à la déclaration de Mme Thériault, d'autres personnalités publiques comme Stéphanie Vallée, l'ancienne ministre de la Condition féminine, ou l'animatrice Marie-France Bazeau, entre autres, ont elles aussi tenu à se dissocier du mouvement féministe.
À ton avis, quels sont les motifs qui pourraient justifier qu'en 2016, le statut féministe soit rejeté de la part de femmes qui se démarquent pourtant par leur ambition et qui n'ont pas peur de s'affirmer sur la place publique, là, comme ces ministres-là, par exemple?
À mon avis, le mouvement féministe reste encore aujourd'hui marqué par un certain complexe dans son affirmation même. Ce complexe-là pourrait très bien s'expliquer par le fait que le mouvement s'oppose à un système qui est bâti pour les hommes, par les hommes. L'idée qu'il faille tout le temps légitimer le féminisme en prouvant qu'il représente en rien une opposition aux hommes de manière générale, pour moi, vient prouver que l'on l'oblige à cohabiter de manière harmonieuse avec la gente masculine pour être accepté, ce qui est en soi un problème. Si le féminisme est toujours essentiel en 2016, c'est pour lutter en cessant de s'excuser d'exister tout le temps puis en s'excusant de déranger. Si la ministre et les autres partisans de l'égalitarisme le sont réellement, je serais tentée de leur répondre que l'atteinte de l'égalité dans toutes les sphères de la vie passe nécessairement par l'empowerment des femmes et cet empowerment-là passe nécessairement, lui, par la lutte féministe.
Puis en quoi est-ce que ça consiste exactement?
L'idée, c'est qu'il est tout à fait impossible de prétendre parvenir à l'égalité des sexes en gardant des structures, des comportements ou des fonctionnements qui sont fondamentalement inégaux et qui donc reproduisent sans cesse cette inégalité.
Oui.
Dans ce sens, l'empowerment vise à assurer un réel rapport de force pour les femmes, question de leur donner les moyens nécessaires pour accéder à une position aussi avantageuse que leurs confrères masculins ont en ce moment. Donc, généralement, il est décrit comme un processus autant individuel que collectif qui permet d'abord de développer une force puis une conscience politique, ce qui assurerait par la suite une capacité d'agir de manière autonome pour parvenir à l'égalité des sexes.
Est-ce que ce processus-là exige de se faire au détriment du pouvoir et de l'influence masculine?
Mais plusieurs théories féministes prétendent que oui. Francis Dupuy-Déry, dans son petit guide du disempowerment pour pro-féministes, dément l'idée selon laquelle les hommes puis les femmes auraient autant à gagner dans la lutte contre le sexisme et le patriarcat. Si effectivement ce type d'organisation-là est malsain de manière générale, on ne peut pas prétendre pour autant qu'il affecte tout le monde de la même manière, puisque les hommes continuent malgré tout à faire partie d'une classe dominante, alors que les femmes sont confrontées quotidiennement à leur position subalterne, au sexisme ordinaire ou à la crainte de la violence sexuelle, par exemple. En ce sens-là, l'égalité des sexes impliquerait nécessairement que l'empowerment des femmes empiète sur celui des hommes. Reste que le disempowerment des hommes n'implique pas nécessairement la réduction de leur capacité d'action, de leur confiance ou de leur puissance en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'homme, donc en tant que membre de la classe dominante, puis privilégié dans le patriarcat.
Mais plus concrètement, comment est-ce que ce concept peut s'ancrer dans les pratiques courantes?
Je vais à nouveau faire référence au petit guide de Francis Dupuy-Déry pour vous donner quelques exemples de la manière dont il suggère aux hommes pro-féministes de participer à laisser aux femmes l'espace qui leur revient au quotidien. Il insiste particulièrement sur l'importance pour les hommes pro-féministes de garder en tête que la lutte féministe est celle des femmes et que si la présence des hommes peut effectivement être la bienvenue, elle doit préférablement être en tant qu'auxiliaire. Il suggère par exemple aux hommes d'accepter de faire des tâches qui sont traditionnellement attribuées aux femmes, qu'on pense à la logistique d'organisation d'événements ou encore les tâches ménagères, évidemment. Donc, sinon, il rappelle aussi l'importance pour les hommes de prendre conscience de leur tendance plus grande à prendre la parole, à s'affirmer, à contester, puis à réaliser que ce type de comportement-là est loin d'être toujours préférable. Souvent, il leur serait plus pertinent de se retirer pour laisser la place à d'autres ou encore d'adopter une attitude d'écoute et d'ouverture plutôt que de confrontation.
De très sages paroles de la part de Francis Dupuy-Déry, qui est d'ailleurs professeur ici même à l'UQAM. Donc, merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca à l'émission La Faute aux médias. Donc, notre dernier segment de l'émission, c'est un segment discussion et débat. Donc, je vais lancer ce petit débat en vous relançant à toutes. Une petite question. La place de l'homme au sein de la lutte féministe, elle devrait s'articuler comment? Qu'en pensez-vous?
Mais l'autre jour, j'étais en réunion, puis c'est drôle parce que Sarah parlait de l'organisation d'événements, puis il y avait juste un seul homme à la table, puis est arrivé le sujet de l'hystério qui n'était pas féministe. Fait que là, tout le monde était un petit peu fâché, on en parle, mais tu sais, on n'a pas trop le temps, en même temps, on était très occupés. Puis le seul homme, lui, arrive, puis il dit « Je sais que je suis le seul homme à table, mais moi, j'ai pas vu de mal. » L'hystério, elle voulait juste dire qu'elle n'était pas ce genre de féministe. Fait que là, moi, je me suis dit, quel genre? Quel genre de féministe? Le genre qui déteste les hommes ou le genre lesbienne enragée? Je vais vous passer quelque chose que j'ai entendu, un extrait de du TED Talk dont je vous parlais tout à l'heure, puis je pense que ça résume très bien le fond de ma pensée.
He told me that people were saying that my novel was feminist, and his advice to me, and he was shaking his head sadly as he spoke, was that I should never call myself a feminist because feminists are women who are unhappy because they cannot find husbands. So I decided to call myself a happy feminist. At some point, I was a happy African feminist who does not hate men and who likes lip gloss and who wears high heels for herself but not for men. Of course, a lot of this was tongue-in-cheek, but that word feminist is so heavy with baggage, negative baggage. You hate men, you hate bras, you hate African culture, that sort of thing.
Donc, on a Chimamanda Ngozi qui dit, dans le fond, le mot en fait, féministe est tellement chargé de sens. Puis, je veux dire, si on pouvait, une fois de temps en temps, être capable de discuter des notions féministes sans avoir... je sais que c'est pas mal intentionné, là, mais tu sais, je sais que je suis le seul homme, mais...
Et toi, Sarah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les hommes devraient aussi s'investir dans cette lutte-là féministe?
Mais je dirais que je suis plutôt d'accord avec des théories comme celle de Francis Dupuy-Déry là-dessus, en sens que, effectivement, il y a... personne qui est mieux placé que les femmes pour mener un combat pour l'émancipation des droits des femmes, puisque nécessairement, les genres, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Puis un homme, bien qu'il soit très bien intentionné, qui se déclare féministe et pro-égalité et tout ça, peut tout simplement pas prétendre connaître la réalité de la construction sociale qu'est la femme aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une place pour les hommes dans la lutte féministe. Si elle est plus discrète, peut-être, ça peut peut-être être préférable aussi, mais je suis pas d'avis qu'il faut nécessairement exclure complètement toute la gente masculine du combat féministe.
Toi, Myriam, t'en
penses
quoi?
Je suis bien d'accord. Il faut absolument pas, dans mon sens, exclure les hommes de la lutte féministe. Je pense même, ben, en fait, comme toi, Sarah, mais même un peu plus loin, je pense qu'il est indispensable qu'ils se joignent à nous dans cette lutte-là, parce que j'aurais l'impression d'une exclusion d'une partie de la population. Et moi, je suis super fière quand j'ai des amis hommes ou mon frère qui me disent « nous, on est féministes ». C'est vrai que c'est un mot qui a beaucoup de connotations plus ou moins positives. C'est presque un gros mot parfois de dire « je suis féministe ». Mais je trouve ça bien que des hommes l'affirment, puis se tiennent à nos côtés. Évidemment, ils ne peuvent pas comprendre l'ampleur du combat, tout ce qui nous reste à mener. Ils voient, mais ils ne le vivent pas au quotidien, évidemment. Mais je trouve que c'est quand même important qu'ils soient à nos côtés.
Donc, selon ce que j'en comprends, vous voudriez que les hommes s'investissent davantage dans la lutte féministe, mais gardent quand même une position peut-être d'arrière-plan. Donc, de soutien plutôt, mais pas de première scène, d'avant-scène.
Oui, mais je pense que c'est important que les hommes puissent aussi faire leur bout de chemin. Tu sais, on est tous des humains. Je ne veux pas sembler trop égalitariste, là, mais on est tous ensemble là-dedans. Tu sais, par exemple, quand les hommes sont témoins d'actions pas féministes, ben c'est à eux aussi de dire « Oui, mais pourquoi est-ce que vous vous adressez à à moi en premier. Est-ce que vous... ils ont le droit aussi de parler, puis quand il y a quelque chose qui dérange, mais la pertinence des lieux non mixtes, par exemple, d'après moi, elle est évidente dans le sens que dans certaines occasions, c'est vraiment le fun, puis ça peut être moins oppressant aussi pour une femme d'être seulement avec des femmes, puis de pas... parce que, veux pas, dans cette dynamique-là, on est dans une dynamique de pouvoir où est-ce que les hommes ont le pouvoir, puis c'est important de pouvoir... Ou est-ce que les hommes ont le pouvoir, excusez-moi, puis c'est important d'avoir des espaces plus sécuritaires à ce niveau-là.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, Camilla, par rapport aux espaces. Et dans une certaine mesure, je suis assez d'accord sur le fait que parfois, c'est bon d'être entre femmes parce que c'est aussi notre combat, puis on sait ce qu'on doit faire dans ce sens-là. Mais il y a certaines manifestations que je ne comprends pas. Ben justement, les manifestations non mixtes, avec uniquement des femmes, ça, par contre...
Mais c'est peut-être parce que, tu sais, les hommes peuvent être parfois plus agressifs ou... En tout cas, je vais laisser Émilien conclure. Là, il va nous taper sur les doigts.
Oui, c'était un sujet très, très fort passionnant. Je vois qu'il y avait des gens autour du micro qui auraient voulu rajouter...
Beaucoup de choses à dire sur le féminisme.
Donc, je vous invite à aller aimer notre page Facebook. On pourra lancer le débat sur les médias sociaux. Donc, je remercie encore mes chroniqueurs Sarah Thibault, Camilla Rodriguez-Sea et Myriam Bernet. Encore une fois, c'était Émilien Roscanou pour la photo média sur choc.ca et je vous laisse en chanson avec Fool de Béja Boulat.
Créatif dédié aux arts de la scène? Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de l'UQAM? UQAM en spectacle revient pour une 11e édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le